Espace 2.
Martin Luther King, Dietrich Bonhoeffer, John Wesley, Frère Laurent de la Résurrection, François d'Assise, autant de figures spirituelles chrétiennes qui nourrissent la réflexion sur la spiritualité de Louis Schweitzer, professeur d'éthique et de spiritualité en région parisienne. Ces figures spirituelles, nous les rencontrons ce soir au travers de ce dernier entretien que nous a accordé ce théologien protestant français. Jérémy Cohn est à la réalisation, Serge Carrel au micro, Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue.
À vue d'esprit.
Les chemins de la vie spirituelle, c'est l'un des derniers livres qu'a publié Louis Schweitzer. Tout au long de cette semaine, nous avons visité avec lui ce qu'il appelle une esquisse de la spiritualité protestante, à la fois du point de vue théologique, mais aussi du point de vue pratique. Aujourd'hui, nous prenons un peu de distance et nous cherchons à savoir de quelle personnalité ou de quelle tradition Louis Schweitzer s'inspire pour développer son propos.
Dans le protestantisme, il y a toute cette grande tradition qu'on va trouver, je dirais, dans le piétisme avec des gens comme Spener, Jacob Spener, dans les réveils avec des gens comme Wesley aussi, hein, et toute cette richesse.
Donc là, le réveil méthodiste...
Voilà, mais qui a marqué très fortement le réveil continental, hein, qu'il soit suisse ou français, ça a joué un rôle très important. De manière plus moderne, je dirais, il y a un Dietrich Bonhoeffer, qui pour moi quand même, à la fois un maître spirituel... un maître à vivre et un maître à penser, mais je veux dire quelqu'un de tout à fait riche.
Et là, s'il fallait en quelques mots esquisser en quoi la spiritualité d'un Dietrich Bonhoeffer est particulièrement féconde pour vous, qu'est-ce que vous diriez ?
Alors moi, c'est l'articulation entre plusieurs périodes qui correspondent, je crois, à des dimensions différentes. Il y a toute une période qui est, je dirais, une période d'approfondissement radical du sermon sur la montagne, hein, cette partie de l'enseignement de Jésus.
Donc ça, c'est les années 30, 35, voilà, sauf erreur, hein, voilà, Bonhoeffer voilà, est confronté à la montée du nazisme,
voilà,
et il se replonge dans des textes centraux voilà, de la tradition chrétienne.
Voilà. Et puis, vous avez ensuite toute sa dimension de la vie communautaire, son petit livre, alors qu'il était donc à Finkenwald dans le séminaire, là, c'était la vie communautaire, donc pratiquée au quotidien.
Où il y avait toute une série de pasteurs autour de lui qui, finalement...
Et en théologie, voilà, c'est oui, c'est ça.
Qui nourrit en fait sa réflexion voilà, sur une sorte de vie voilà, quasi monacale.
Voilà. Et on a un admirable petit bouquin, tout petit, mais je dirais absolument remarquable, je trouve, sur la méditation, justement, sur la prière, sur la vie communautaire dans ses difficultés et dans ses richesses relationnelles, etc., sur la dimension liturgique, etc. Et puis, évidemment, il y a aussi, je dirais, l'homme avec les décisions qu'il va prendre, la cohérence de sa vie et de sa pensée, son engagement, et je dirais, l'homme qui va être quand même rayonnant jusqu'au moment où il monte, il y a des témoignages étonnants, hein, jusqu'au moment où il monte pour l'échafaud, si j'ose dire, enfin bon, où il reste, je dirais, un homme de paix et de sérénité, si on lit les témoignages des gens autour de lui. Donc voilà, je dirais, là, il y a cette volonté d'une spiritualité profonde, complètement enracinée dans un quotidien, dans la réalité de l'histoire. C'est pas du tout le fait de sortir du monde et de se mettre dans une grotte, dans des terres reculées, mais c'est vraiment au plein cœur de l'histoire. On pourrait reparler de la même manière, je dirais, de Martin Luther King.
Voilà, c'est aussi l'une des figures qui ressort, en tout cas, du côté de la fin de votre livre, dans le sens où elle intervient comme quelqu'un qui vous permet de profiler l'un des critères de l'authentique spiritualité, l'amour du prochain.
Bien sûr. Et pour moi, Martin Luther King, je dirais, c'est la personne qui a allié, exactement comme Bonhoeffer, hein, même si c'était dans deux contextes différents, je dirais, une spiritualité profonde, hein, il était pasteur baptiste, et baptiste noir américain, avec ce que ça peut avoir aussi de caractéristiques, mais précisément, qui a vécu la radicalité du sermon sur la montagne, l'enseignement de Jésus, dans la lutte politique pour l'égalité des droits, et dans le cas de Bonhoeffer, comme dans le cas de Martin Luther King, jusqu'à donner leur vie pour ça.
Donc là, c'est tout particulièrement le cas à la fin des années 50 et au début des années 60 aux États-Unis. Et il y a dans votre livre notamment une prédication qui ressort, c'est celle qui encourage à l'amour de l'ennemi.
J'enseigne l'éthique et la spiritualité. Et je suis très heureux d'enseigner les deux, parce que j'ai l'impression que quelquefois, sous le mot éthique, nous déconnectons complètement la réalité éthique de la spiritualité. Et dans spiritualité, nous ne pensons que relation à Dieu un peu éthérée. Pour moi, l'éthique et la spiritualité s'articulent complètement. Et la spiritualité débouche complètement sur un comportement éthique. Je crois que quand on parle de spiritualité chrétienne, l'idée que cette spiritualité soit simplement une question de relation avec Dieu, je crois, serait de l'ordre de l'hérésie pour moi. C'est de l'ordre de la relation avec Dieu et avec les êtres humains, les hommes, les femmes de ce monde, pas dans l'Église, dans la vie de tous les jours. Et donc, pour moi, un des critères d'une spiritualité authentique, c'est l'engagement dans le réel. Alors, on peut être un moine, je dirais, être complètement dans sa cellule et porter le monde dans la prière, dans l'intercession. C'est aussi une forme d'engagement. Mais je veux dire, il ne s'agit pas du tout de se déconnecter du réel pour se retrouver en quelque sorte dans un dialogue confiant avec Dieu qui nous fait oublier les miasmes de la réalité. Il s'agit, je crois, de s'engager comme disciple de Jésus-Christ dans la réalité.
Et là, Martin Luther King est particulièrement emblématique d'une telle démarche.
Pour moi, oui, parce que Martin Luther King essaie à la fois de vivre la radicalité de l'enseignement de Jésus sur l'amour du prochain et l'amour de l'ennemi, et en même temps, l'exigence de combat pour la justice et de défense du faible, en l'occurrence. Il n'y a pas cette, l'un ou l'autre, là. Les méthodes qu'il va mettre en œuvre sont des méthodes, je dirais, du sermon sur la montagne.
Des méthodes non violentes.
Des méthodes non violentes. Il a dit souvent que l'inspiration profonde lui venait du sermon sur la montagne, la technique lui est venue de Gandhi. Et je crois qu'effectivement, mais Gandhi lui-même avait tiré du sermon sur la montagne une bonne partie, et de Tolstoï une grande partie de tout cela. Il me semble que là, il y a toute une démarche. Alors, il ne s'agit pas d'absolutiser la non-violence, parce que je dirais l'exemple de Bonhoeffer tout à l'heure,
qui a été prêt à fomenter un complot contre Hitler.
Lui aussi marqué par la non-violence pendant toute une période de sa vie, et l'enseignement non-violent, mais en même temps, qui effectivement s'est engagé dans le complot contre Hitler, montre bien que, je dirais, ce à quoi nous allons pouvoir être appelés peut être très différent en fonction de ce que nous allons juger bon dans un moment donné particulier. Et je crois qu'il n'y a pas un absolu pour moi. Mais j'ai envie de dire que, je dirais que la démarche de non-violente, la démarche d'un Martin Luther King plutôt, je dirais c'est la norme. Je dirais c'est à ça que nous sommes appelés, à nous battre, à lutter pour la justice dans le cadre, je dirais, de l'amour du prochain et de la non-violence. Et puis je crois que dans certaines situations, comme ça a été le cas de Bonhoeffer, il est possible que certains se trouvent dans une situation telle, dans une impasse telle, que finalement ils vont choisir, et je dirais d'une certaine manière en toute mauvaise conscience, très frappé de voir à quel point Bonhoeffer lui-même disait « Bon, je me suis engagé là-dedans parce que je crois que c'est juste, mais je comprendrais très bien qu'après la guerre, il espérait voir la fin de la guerre, l'Église ne veuille plus de moi comme pasteur parce que je me suis engagé là-dedans. » Donc il considérait pas ça comme allant de soi. Mais voilà, je crois qu'il peut y avoir des chemins différents. En tout cas, la spiritualité débouche, je crois, très profondément sur l'engagement dans la pratique. Il y a un point que tout le monde n'a peut-être pas noté dans l'Évangile, c'est que tout le monde connaît la parabole du bon samaritain. La parabole du bon samaritain, c'est par excellence le texte qui nous dit qu'il faut aimer notre prochain comme nous-mêmes, nous engager de manière courageuse pour venir en aide, etc. Est-ce que vous vous rappelez quel est le texte qui suit immédiatement, le péricope suivant immédiatement?
Alors dites-le nous.
C'est Marthe et Marie. Précisément ce moment où il y a Marthe. Jésus rentre chez deux sœurs, et il y a Marthe qui est tout le temps affairée au fourneau, qui
l'accueille, très active.
On pourrait dire c'est elle, d'une certaine manière, qui met en œuvre la parabole précédente du bon samaritain. C'est elle qui travaille, c'est elle qui fait quelque chose pour le bien de l'autre. Et puis il y a Marie qui se met au pied de Jésus et qui écoute. Et Jésus va donner raison à Marie en disant « Marthe, tu t'agites, mais une seule chose est nécessaire, et voilà, Marie a choisi la bonne part. »
Mais qu'est-ce à dire ?
Et pour moi, ça veut dire que l'engagement pour le prochain, l'engagement actif, sans la dimension de la spiritualité, de l'écoute de Dieu, de la prière, de la méditation, peut être tout à fait une excitation, je dirais, une agitation vaine. De même, la méditation et la spiritualité, qui ne débouchent pas sur le service du prochain et sur un engagement concret, peut être tout à fait une fuite dans le rêve. Donc je crois que les deux sont articulés, d'où l'importance de ces deux personnages que nous venons de citer. Mais il y a d'autres personnages importants.
Le Louis Schweitzer, ce qui m'a frappé dans votre livre, c'est les nombreuses pages consacrées à Frère Laurent. Alors dites-nous en quelques mots qui était ce Frère Laurent qui, somme toute, était un Parisien.
Oui, un Parisien. Et là, vous savez que j'enseigne aussi à l'Institut catholique de Paris et il était carme dans le monastère qui est enfin, à la place actuelle de l'Institut catholique. C'était un tout petit bonhomme. Qui était ni un grand intellectuel, ni un grand... C'était un ancien soldat.
Et un cuisinier, Lorrain, semble-t-il.
Alors voilà, qui est rentré chez les Carmes, au Carmel donc, et qui est devenu, pendant toute sa vie, il a été le cuisinier du couvent. C'est un gros boulot, hein. C'était un couvent avec 150-200 personnes, donc vous faites la cuisine pour tout ça. Et puis quand il a été trop vieux pour ce genre d'exercice, il a été savetier, donc il faisait les godasses. Donc vous voyez, quelqu'un tout à fait naturel. Et pour nous, chose intéressante, quelqu'un qui a connu le stress, parce que non seulement il était cuisinier pour un grand couvent, mais en plus c'est lui qui devait partir de temps en temps en Bourgogne chercher le vin ou à je sais plus où chercher les victuailles. Et il a vécu une vie pendant très longtemps de communion avec Dieu, tout naturel, je dirais, dans un petit dialogue incessant avec Dieu.
Il pratiquait ce que vous appelez, ce que d'autres appellent la présence de Dieu.
Voilà, exactement, la pratique de la présence de Dieu, c'est-à-dire... La présence de Dieu, c'était pas les moments de l'Eucharistie, c'était pas les moments de méditation, c'était tous les jours, lorsqu'il retournait, disait-il, sa petite omelette, et ben voilà, il le faisait pour le Seigneur, et il entretenait une sorte de dialogue permanent avec Dieu.
Est-ce que vous avez l'impression, à certains égards, que c'est un peu le type même de spiritualité pour Jean Pressé?
Pour Jean occupé, pas pressé. Mais je dis, pressé, ça dépend dans quel sens. Mais oui, tous ces gens dont nous sommes tous, hein, qui sont entre la famille, les enfants, le travail, le métro, nous avons peu de temps. Et là, nous disons, si j'avais un peu de temps, alors je me plongerais dans la méditation, la contemplation, etc. Mais voilà, comme j'ai pas le temps, j'attends la retraite. Et puis à la retraite, je serai encore ailleurs. Alors que là, c'est l'idée que il n'y a pas de dissociation nécessaire entre l'action et la vie de prière et la contemplation. Que l'un va avec l'autre. Et que tout naturellement, alors, c'est évidemment vrai, beaucoup plus vrai dans les temps qui ne demandent pas une concentration intellectuelle très forte, hein. C'est plus facile de retourner une omelette ou de ressemeler une chaussure que de travailler sur son ordinateur à écrire un texte en même temps que nous prions. Mais, on se rend compte que l'homme moderne, il a un temps fou entre le moment qu'il passe dans sa voiture, les moments perdus, qui sont innombrables. Moi, je dirais, cet homme m'apparaît un modèle pour nos contemporains actifs dans une vie normale. Je dirais que dans le même ordre d'idées, toute la dimension du pèlerin russe et de la prière de Jésus ou de la prière du cœur me paraît un peu la même chose. C'est-à-dire, comment faire pour prier, pour avoir une relation à Dieu au sein de l'activité et pas simplement dans des moments privilégiés. Et là, je crois qu'on a quelque chose de très protestant, qui est l'idée de vivre, alors pas que protestant, mais particulièrement protestant, qui est l'idée de vivre la vie pleine et entière, la vie professionnelle, la vie familiale, etc., devant Dieu, et de ne pas avoir des lieux ou des moments sacrés. Alors, si on a des moments, je dirais, de silence, de contemplation, de retraite, je crois que c'est très utile aussi, mais... Voilà, la spiritualité ne se limite pas à certains moments, mais dans le quotidien de l'existence.
Et comment est-ce que pratiquement ce frère Laurent vivait cette pratique de la présence de Dieu ?
Il disait tout simplement, lorsque je vais m'engager dans une activité, ben j'en parle au Seigneur et je lui présente cette activité, parce que je ne suis pas très capable de la réaliser, donc je lui demande de m'aider. Pendant que je suis en train de la faire, eh bien je m'entretiens avec le Seigneur et je lui dis merci, ou je lui dis voilà. Et puis après, eh bien je le remercie pour le travail qui a été fait.
Au fond, donc il fait de Dieu une sorte de compagnon du quotidien.
Voilà, voilà. Compagnon du quotidien, d'autant plus fondé, je dirais bibliquement, que Dieu est présent en nous. Jésus a dit non seulement « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde », mais la présence de l'Esprit est une présence de tous les instants. Et donc, l'amour de Dieu ne s'intéresse pas à mes grands moments de spiritualité, mais aux détails de mon existence. Et c'est une manière d'être conscient. Voilà, vous savez, j'appartiens à un mouvement de prière et de spiritualité qui s'appelle les veilleurs. Et bien moi, j'ai l'impression que c'est ça. On est soit endormi, soit éveillé. Et j'ai l'impression que dans la spiritualité, nous avons quelques moments où nous entr'ouvrons les yeux, ou quelques moments de réveil, et puis une longue période de somnolence. Je crois que ce type de prière, que ce soit la prière de Jésus, que ce soit la manière de prier de Frère Laurent, c'est une manière de vivre éveillé, et de vivre conscient de la réalité de Dieu, et donc conscient d'un autre regard que nous pouvons porter sur le monde tel qu'il est autour de nous, dans le quotidien des choses, dans le concret de la réalité.
Louis Schweitzer, il y a un nom qui revient constamment dans l'ensemble de votre livre, c'est bien entendu celui de Jésus, le fondateur du christianisme. Alors, en quoi Jésus est un spirituel d'envergure?
Je crois qu'il est même plus que ça, mais il est ça aussi. Spirituel d'envergure dans la mesure où il a l'air, quand vous lisez l'Évangile, d'avoir une relation à Dieu qui est permanente. Hein? Quand il parle de son Père, quand il parle de sa volonté et de la volonté de Dieu, il s'agit d'une seule et même chose. Hein? Il dit, au fond, ce que je fais, c'est le Père qui le fait à travers moi, non pas ma volonté, mais ce que Dieu veut, etc. J'ai l'impression que pour les chrétiens, Jésus est le modèle parfait. Alors, il est plus que ça, mais il est aussi ça. Il est le modèle parfait dans la mesure où il est l'être humain unique, en tout cas à ce point-là, où il y a une sorte de transparence totale à Dieu. Comme si l'œuvre de l'Esprit qui était présent en Christ avait pris, enfin, pas comme si, mais avait pris toute la place. Je dirais que nous sommes appelés à devenir, vous savez, Jésus dit, le disciple n'est pas plus grand que son maître, mais le disciple accompli sera comme son maître. Nous sommes appelés à vivre la même chose. C'est tout un cheminement qu'on va appeler en terminologie classique, hein, la sanctification, c'est-à-dire petit à petit que nous devenions de plus en plus semblables au Christ. Si on lit le Nouveau Testament, au fond, on est appelé à rien de moins que ça. Quand Jésus nous dit dans le serment sur la montagne, soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait, nous sommes appelés à devenir semblables au Christ. Et donc dans ce sens-là, je dirais qu'en contemplant le Christ dans les évangiles, on a à la fois, je dirais, la plénitude de ce qu'est Dieu, c'est ce que je disais dans une précédente rencontre, parce que celui qui m'a vu, dit-il, a vu le Père, et puis on a la plénitude de ce que nous sommes appelés à devenir, dans cette transparence, cette confiance complète à Dieu qui va aller jusqu'au sacrifice de l'existence pour Jésus. Donc je dirais qu'il n'est pas simplement le confort
spirituel.
Oui, c'est ça. Voilà. Et il me semble que là, alors, tout ce que nous pouvons balbutier en tant que chrétiens n'est qu'un commentaire, je dirais, autour de l'enseignement fondamental du Christ tel que nous le retrouvons dans les évangiles.
Le théologien français Louis Schweitzer était notre invité cette semaine, rappelant qu'il a publié aux éditions du Cerf « Les chemins de la vie spirituelle, esquisse d'une spiritualité protestante ». Si vous souhaitez connaître les références exactes de cet ouvrage, ou alors les coordonnées d'un séminaire que donne demain Louis Schweitzer, pas très loin de Lausanne, ne manquez pas un saut sur notre page web, espace2/esprit. Voilà, cette série autour de la spiritualité protestante est terminée. La semaine prochaine, à Vue d'Esprit se poursuit, même heure, même fréquence. Jérémy Cohn à la réalisation et Serge Carrel au micro vous souhaitent une agréable fin de soirée et de semaine à l'écoute d'Espace 2.
Espace 2, Jean-Luc Ridère.
Je vous propose de passer une dernière heure en compagnie d'Émile Jacques Dalcroze.